MDM. On n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.
À la rubrique sortie à Mont-de-Marsan, le vernissage ce mercredi soir au Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos de l'exposition Creuser, creuser comme le verbe du premier groupe. Une proposition inédite mêlant expérimentation plastique, installation, sculpture, texte, images, sons et vidéos. Signée de trois artistes, les deux plasticiens Laura Friss et Kevin Chrisman. Et le vidéaste Mathieu Sanchez, tous trois issus du collectif artistique toulousain IPN Creuser, est le fruit d'une enquête menée dans le Gers depuis 2 ans auprès des habitants et autour d'une moissonneuse batteuse qui aurait, selon les légendes rurales, été enterrée dans les années 80. Politique agricole, ruralité, paysage ou encore transmission, l'exposition interpelle. Que peut-on dévoiler? Que ne doit-on pas dire? Des questions qui cherchent leurs réponses par le prisme de la sculpture, de la mise en scène du vivant, de l'image et des mots dans un lieu et centre d'art donc, qui, trouble de l'histoire ou coïncidence, est bâti dans une ancienne halle à grains. La genèse d'un projet de territoire et de mémoire, présenté ici dans un premier temps par Laura Friss et Kevin Chrisman dans ce grand format.
Dans nos pratiques respectives d'artistes, on travaille pas mal sur la mémoire des lieux, on fait attention aux vestiges, à ce qu'on hérite du passé, on essaye de comprendre les choses en faisant, en créant, en inventant des formes, en reproduisant des choses pour un petit peu comprendre l'histoire, quoi. Et du coup, on s'est mis en tête de déterrer la machine. Et comme un geste unique, quoi, comme un geste artistique, quoi, qui mêlerait la sculpture, l'archéologie, la performance. Et donc, on a commencé à en reparler aux gens qui nous en avaient parlé dans les champs. Et on est de fil en aiguille, on a rencontré d'autres personnes et puis on a compris que c'était pas du tout le geste à faire, quoi, que de déterrer cette machine, ça allait saboter un geste qui était volontaire. Et on a pensé aux pilleurs de tombes, on a pensé au musée d'anthropologie, on a pensé à ce qu'on fait en fait des vestiges aujourd'hui et qui nous correspondent pas particulièrement, quoi.
Est-ce qu'on sait pourquoi elle était enterrée d'ailleurs, cette moissonneuse, batteuse?
On a des éléments de réponse, mais après aussi dans le projet il y a un jeu de dire ou de pas dire. En fait, il y a des trucs qui nous semblent pas forcément importants, de savoir qui a fait ça, où est-ce que c'est. On a peut-être des réponses, mais on aura pas forcément. Nous, c'est surtout cette histoire-là qui est centrale, mais qui aussi devient un prétexte. Ça nous permet de rencontrer des gens, des paysans, jeunes, pas jeunes, des archéologues, des géologues. Et ça nous permet de se mettre dans des situations aussi et de tirer les ficelles, en fait. C'est un peu tout ça qui se retrouve là, dans cette expo. Toutes ces ressources qu'on a collectées, c'est les prendre, comment on s'en empare, on les transforme potentiellement, et qu'est-ce qu'on peut raconter avec tout ça, quoi. Mais en tout cas, c'est pas l'exposé d'une enquête qui part d'un point A et qui va à un point B. Ça va plutôt du point A au point A.
D'accord.
Comment parler au mieux de toutes les ficelles qu'on tire? Donc il y a la ficelle archéologique, la ficelle scientifique aussi. Qu'est-ce qui se passe dans le sol? Qu'est-ce qui se passe sous-sol? La question artistique, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit pas?
Ouais.
Comment les choses disparaissent ou apparaissent? Donc du coup, ça c'est une grande question de Mathieu, par exemple.
Ouais. Mathieu. Là, avant de me lancer dans cette histoire, je bossais pas mal sur réfléchir à quel moment les choses n'existent plus, que si on les voit pas, est-ce qu'elles existent encore, d'essayer de toucher du doigt un petit peu qu'est-ce qui existe, pourquoi
qu'est-ce qui
ça
peut devenir obsolète ou qu'est-ce qui peut s'oublier,
qu'est-ce qui peut s'oublier, est-ce que si ça s'oublie, est-ce que c'est toujours important, des trucs comme ça. Du coup, leur histoire de moissonneuse batteuse qu'on avait volontairement cachée, quoi, fait disparaître, m'intriguait, et je trouvais que ça faisait écho un petit peu aux questions que je me posais. Et voilà, mais c'est vrai que du coup dans le film il y a dans la façon de tourner, il y a aussi ce jeu de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, est-ce que parler de l'histoire sans dévoiler, donc montrer par des images, mais un peu plus travailler sur le hors-champ, ce qu'il y a à côté de l'enquête. Il y a l'enquête et puis il y a tout ce qui tourne autour de l'enquête, toutes les petites choses qui sont qui apparaissent, qui pop, quoi, autour de l'enquête. Il y a Laura et Kevin qui sont un peu moteurs d'événements, de situations, que quand ils se promènent et qu'ils discutent avec des gens, ça fait ressortir des choses. Les gens, ils s'emparent un petit peu de cette histoire.
Il y a aussi beaucoup la manière dont on cherche. Comme tu dis, tu parles de situation, en fait, on pratique beaucoup la mise en situation et l'improvisation aussi. pour collecter des infos ou justement pour se laisser surprendre par des nouvelles pistes. Et comment on rencontre les gens, tout ça, c'est travailler aussi, quoi.
Plus ça va, plus je filme leur façon de chercher plutôt que ceux qui cherchent.
Il y a une personne qui commence à nous aider pour produire le film avec la petite boîte de production qui s'appelle Minimum Moderne, qui est sur Bagnères de Bigorre. Il nous a beaucoup poussé à la réflexion sur justement qu'est-ce que c'est ce documentaire, de quoi il va parler et tout ça. Et on s'est rendu compte que c'était aussi beaucoup notre attitude à la recherche qui comptait. Qui on est, de d'où on part pour aller chercher cette machine. Par exemple, ni Kevin, ni moi, ni Mathieu ne sommes concernés par des questions agricoles à la base. Quoi.
Ce que j'allais vous demander aussi, quel regard vous aviez par rapport à la ruralité.
Ouais, on n'est pas paysans ou fils-filles de paysans. Et du coup, cette attitude d'étranger par rapport à ce domaine-là aussi nous permet un regard sensible et poétique à tout ce qu'il y a, et aussi très intéressé et très politiquement positionné, ouais, quelque part.
Mais d'arriver avec cette sorte de virginité, voilà, ça permet d'avoir peut-être un autre regard que si vous aviez été plus touché par la question agricole.
Ah oui. Bah oui, et puis c'est surtout qu'on a une espèce de naïveté dans nos questions qui permet de tirer des réponses. Enfin, du coup, on nous explique tout. Et on n'a aussi aucun intérêt dans les questions qu'on pose, on n'a aucun intérêt dans trouver ou déterrer cette machine. On n'est pas des dépollueurs, on n'est pas accusateurs, on n'est pas jugeurs, on est curieux.
Comment c'est reçu d'ailleurs ?
Bah, ça dépend vachement en fait. Soit c'est juste bien accueilli et il y a de la grosse discussion et c'est trop bien, ça fabrique des moments.
Mais voir un coup.
Et même certaines personnes nous disent ce qu'on doit faire aussi et sont très enthousiastes à l'idée de parler de cette histoire-là, quoi.
Mais aussi, il peut y avoir potentiellement d'autres situations où justement, vu qu'on est des étrangers par rapport à un espace, à un territoire, il peut y avoir une petite méfiance, quoi. Ouais. De parler de pratiques agricoles, vu que ça touche au remembrement, à des pratiques agricoles qui sont remises en question maintenant. Il y a des gens qui sont dans des situations qui leur permettent peut-être pas de changer de pratique agricole. Ils peuvent se sentir, jugés, accusés. Enfin, ils peuvent nous prendre pour des zadistes ou des personnes qui auraient quelque chose à revendiquer ou des personnes qui pourraient remettre en question leur modèle agricole. En tout cas, nous, on le fait pas individuellement. On a peut-être une pensée... du modèle agricole, comme tout le monde, il y a des trucs qu'on aimerait voir changer, j'en sais rien. Mais c'est pas l'endroit dans cette enquête de l'affirmer. Nous, on cherche juste à comprendre, quoi.
Parce qu'il faut dire que c'est une histoire qui touche à une période de grands changements dans la politique agricole. C'est les années 80, c'est le moment où une grosse partie du Gers a été remembrée. Et le remembrement, c'est une histoire dont on a très peu parlé jusqu'à présent. Et en fait, maintenant que les mémoires vives de cette époque-là sont en train de décliner, de disparaître, on commence à pouvoir en parler. Et ça a provoqué beaucoup de choses. C'était quelque chose de très attendu. En fait, le remembrement, ça a consisté à agrandir les parcelles. C'était une politique agricole pour produire plus et plus de monoculture. Chacun allait avoir une spécialité. Donc, c'est un peu la fin de l'élevage, la fin du bocage. Donc, c'est très marqué par l'arrachement des haies. On a arraché les haies bocagères. On nous a parlé de cette période comme... un paysage de guerre, une guerre contre le paysage. Enfin, il y a beaucoup ce champ sémantique-là qui est revenu.
C'est plus la fin d'une époque, ça fait un monde presque.
Ouais, mais qui était très accueilli parce qu'à l'époque, dans ces territoires-là, on vivait... Enfin, il n'y avait pas de courante, il n'y avait pas l'électricité, il y en avait peu. On accrochait la bouffe aux poutres parce qu'il y avait des rats. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, du coup, il fallait aussi un changement pour aller vers la modernité. Donc, c'était aussi vachement bienvenu. vachement accueillis. Et aujourd'hui, on nous parle beaucoup de regrets, quoi, aussi, de comment cette chose-là a été faite, quoi. Comment les parcelles ont été restructurées, comment ça a été. On nous a parlé de massacres. Y a une personne qui élève des vaches et qui a dû récemment se séparer de ses dernières vaches, notamment dû à un remembrement. Enfin, donc voilà, ça c'est une histoire assez sensible pour le territoire et c'est une histoire dont hérite pas mal d'agriculteurs aujourd'hui.
L'exposition, comment on doit dire, comment elle se visite, comment elle se décline, comment on la découvre.
Les gens rentrent et puis se baladent un petit peu comme ils veulent à l'intérieur. Mais c'est plus comme plein de petites indices, de petites clés pour essayer d'ouvrir les questions qui sont posées.
C'est chacun qui fait sa propre enquête et qui...
C'est pas aussi ludique que ça non plus. C'est ouais. pas.
Oui, c'est pas un cluedo agricole.
Ouais, non, je sais pas, j'ai un conseil à donner aux spectateurs, à part de prendre le temps, parce que il y a beaucoup de médiums qui sont impliqués dans l'expo. On s'est pas mal investi, mais ça, c'est pas. Les gens s'en foutent, mais. mais je pense que c'est quand même. Il y a beaucoup de vidéos, il y a des choses qui se passent aussi dans le temps, il y a une installation qui. Non, tu sais, je peux le dire ça. Faut aussi découvrir, on va pas tout donner, tu vois.
Mais il y a des choses vivantes, et puis il y a beaucoup de passerelles à faire entre les différentes œuvres, et on a essayé d'utiliser l'espace de manière à faire des ping-pong. Bah, il y a par exemple des sérigraphies qui sont un peu des rébus avec des images du film, des croquis de nos carnets, parce que quand on enquête, on note des choses un peu dans l'urgence, et on voulait aussi montrer ça. On a aussi sollicité quelques œuvres de la collection du musée ici, du centre d'art. Certaines œuvres sont un peu des réponses à ce qu'on fait aussi, donc on a essayé de faire un accrochage avec les œuvres de la collection et les nôtres. Enfin voilà, il y a beaucoup de médiums, quoi. Sculpture, œuvre évolutive, vidéo. Il y a toute une scénographie aussi, quand même, quand on déambule dans l'espace. On a essayé d'habiter l'espace, quoi, de l'occuper de manière à servir les œuvres et servir le propos. Donc, des espaces sombres pour la vidéo, de la lumière pour d'autres pièces.
Vous coupez presque l'herbe sous le pied. C'est-à-dire qu'à quel moment même le lieu, le Centre d'art contemporain Raymond Farbos, a influé ou influe sur la création? Parce que, ironie de l'histoire, ou le petit clin d'œil, c'est qu'on est dans un ancien silo à grains.
Bah oui, complètement. Enfin, c'est assez... comme on dit, ça fait sens.
C'est vraiment un heureux hasard. Après, c'est un peu dans nos pratiques, on fait toujours attention au lieu dans lequel on est, je crois. Ouais. Autant par l'espace physique que potentiellement vraiment l'histoire du lieu. Mais là, c'est ce qu'on a fait aussi. On a des échelles, des circulations qui est inhérente au lieu et on a bossé avec elle. On a refabriqué de la circulation dedans, mis des choses à l'échelle. Enfin, on bosse avec le lieu, quoi. Vraiment, c'est très drôle que ce soit une ancienne halograin.
Ouais. Si je peux rajouter un truc sur la façon de voir l'exposition, ça parle d'une enquête qui est sur du long terme, quelque chose de lent, dans une temporalité un peu lente, et je pense que ça se ressent dans l'exposition, dans les pièces qui sont montrées aussi. Il y a quelque chose qui parle de la durée, de la lenteur, du fait que les saisons, il y a plusieurs fois les saisons qui passent.
Du temps arrêté qu'on peut avoir dans les campagnes.
Et puis, ça fait 2 ans à peu près que vous cherchez sur le terrain. Voilà, qu'on produit des images au cours du temps, des recherches, des notes, des machins comme ça. Tout ça se ressent, je pense, dans l'expo.
Bah, c'est un petit arrêt sur image à un moment. Là, on a essayé beaucoup de nouvelles choses. Enfin, tout est nouveau, là, ici, pour nous. C'est un super exercice pour faire du montage vidéo, un super exercice pour savoir comment montrer nos pièces à conviction, entre guillemets, ouais. aussi. Et voilà, on avait encore jamais fait ça, quoi.
Creuser, un projet pluridisciplinaire associant expérimentation plastique, installation, sculpture, texte, images, son ou encore vidéo autour de cette histoire de territoire et de mémoire avec les talents des plasticiens Laura Friss et Kevin Chrisman et du vidéaste Mathieu Sanchez, a.k.a. Will, son nom de musicien sur les compositions que vous avez pu entendre ou celle qui va suivre. C'est au Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos à Mont-de-Marsan à partir du 22 mars jusqu'au 27 juin. Vernissage donc ce mercredi à partir de 18h30.
Proche de chez vous.